Le 18-20 commence avec ce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 8 novembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par des indemnisations.
Celles des victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique française. La conférence des évêques a validé aujourd'hui la création d'une commission indépendante et d'un fonds abondé soit par la vente de biens immobiliers de l'Église, soit par un emprunt. On y revient en détail dans un instant. La lutte contre l'immigration fait des vagues à gauche sur l'échiquier politique. Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle, vise notamment les transferts d'argent privé, pas nécessaire d'en rajouter dans la haine contre les étrangers. Les étrangers, lui répond son rival Jean-Luc Mélenchon, on l'entendra. À suivre aussi la Pologne qui craint une vague massive de migrants à ses portes organisée par son voisin biélorusse. Une grève très suivie dans les TER. Aujourd'hui et demain, nous serons en Champagne-Ardenne et les vaccins à ARN messager comme le Moderna qui provoquent plus de myocardite en dose de rappel. Une étude française le confirme.
À 18h15, un jour dans le monde, on s'inquiète justement en France du retour du Covid. Regardons autour de nous, voir si l'herbe est plus verte. Eh bien, pas toujours. Nous irons chez les inquiets, les Allemands, chez les sereins, les Italiens ou les Israéliens, chez les inconscients, aussi les Russes. Et puis 19h20, c'est le téléphone. Sonne à vous de jouer alors que l'on attend en France la lanceuse d'alerte qui dénonce les dérives de Facebook. Elle est aujourd'hui à Bruxelles. Posons-nous la question. Vous la posez. Vous qui avez un profil ou une page, peut-on encore faire confiance à Facebook ou laisser tomber le réseau social, ses algorithmes, ses fake news? Est-ce qu'on peut encore réguler Facebook? Dites-nous ce que vous en pensez au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'indemnisation des victimes de violences sexuelles au sein de l'Église prend forme. Concrètement.
Après avoir admis sa responsabilité institutionnelle et une dimension systémique dans ses abus, l'Église propose en effet des mesures effectives. Comment reconnaître et indemniser les 300 000 victimes identifiées par le rapport Sauvé depuis 1950? Les évêques de France se sont réunis toute la semaine dernière pour en discuter. Nous sommes en direct avec Delphine Evenou. Bonsoir. Des décisions, Delphine, ont été annoncées à la mi-journée par l'épiscopat français lors d'une conférence de presse très attendue, 4 mesures globales avec effet immédiat.
Oui, avec déjà des décisions initiées en mars lors de la dernière assemblée plénière, confirmées et détaillées aujourd'hui. D'abord, cette instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, même modèle que la CIAZ, Marie de Rhin de Vaucresson, juriste, ancienne défenseure des enfants, en prend la tête. Elle va suivre les dossiers des victimes pour aboutir à une indemnisation financière individuelle, prélevée sur le fonds de dotation initié là aussi en mars. Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France, en a précisé le financement.
Les évêques de France ont décidé d'abonder ce fonds autant qu'il est nécessaire en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la conférence des évêques ou des diocèses. Nous ne prendrons pas d'argent du denier de l'Église, mais nous utiliserons les réserves de sécurité dont nous pouvons disposer. Et nous avons aussi décidé, s'il le fallait, de souscrire un emprunt pour pouvoir honorer nos obligations.
Deux autres annonces à effet immédiat, la demande formulée auprès du Vatican d'envoyer aux évêques français une équipe d'évaluation de leur mission de protection des mineurs et puis l'inclusion forte des laïcs avec 9 chantiers thématiques comme l'accompagnement des prêtres mis en cause ou les bonnes pratiques devant les cas signalés avec des victimes associées pilotées par des laïcs. Ces groupes de suivi des recommandations de la CIAZ feront un point d'étape en juin et un rapport au printemps 2023.
Delphine Evenou en direct de Lourdes, création donc d'une instance nationale indépendante, création d'un fonds financé, on l'entendait notamment par la vente de biens immobiliers. Ces mesures sont-elles à la hauteur des attentes des victimes? Écoutez Véronique Garnier, l'une des victimes qui a témoigné la semaine dernière devant les évêques. Elle salue le dispositif, mais elle s'interroge sur la façon dont elle sera elle-même indemnisée.
Comment est-ce qu'on peut évaluer la vie d'un enfant, l'innocence perdue, son trajet de vie qui est dévié? Ça, ça n'a pas de prix. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je voudrais, quelle que soit la somme d'argent qui me sera évaluée, donc proposée, je voudrais la partager publiquement avec mes enfants. Parce que je voudrais signifier par là que les préjudices que j'ai subis moi-même, d'une certaine façon, je les ai transmis à mes enfants qui sont aussi des victimes indirectes. On a tous autour de soi des personnes qui sont victimes indirectement. Aujourd'hui, je me sens plus témoin que victime. Et je voudrais aussi témoigner pour que les victimes indirectes puissent aussi être prises en compte.
Voilà, le témoignage de Véronique Garnier, c'était avec Thibault Lefèvre.
À 6 mois de la présidentielle, la gauche s'écharpe sur la question de l'immigration.
C'est Arnaud Montebourg qui est à l'origine de cette brusque montée en température à gauche. L'ancien ministre socialiste candidat à la magistrature suprême qui a proposé hier de bloquer les transferts d'argent privé, les transferts Western Union par exemple, en direction des pays étrangers qui refusent de reprendre leurs ressortissants visés par une expulsion. Un moyen, dit-il, de taper au portefeuille des pays les moins coopérants. Idée cruelle et stupide, selon le patron du PS, Olivier Faure. Glauque et injuste, ajoute pour sa part Jean-Luc Mélenchon, qui tenait une conférence de presse cet après-midi.
Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, c'est même pas dans son programme. Il n'y en a pas assez qui hurlent du même côté. Il n'y a pas assez de haine, il n'y a pas assez de méfiance, il n'y a pas assez de volonté de se venger sur les pauvres diables, qu'il faut encore en rajouter. Hein, et puis prendre comme ça une pause de scrogneugneux. Vous allez voir, moi je suis capable de taper les pauvres. Tu parles d'un exploit. Frapper les pauvres, ceux qui peuvent pas se défendre. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne, une idée pareille? Bah, les gens sur place n'auraient plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'il n'y a pas de moyen de vivre sur place. La preuve, c'est que les autres sont partis faire immigrer. Bah, il y aura davantage d'immigration. Je trouve que c'est une contribution qui est apportée gratuitement à ce qu'il y a en ce moment de pire dans l'esprit public. Je regrette qu'il l'ait fait parce que ça arrange personne, hein, franchement.
Jean-Luc Mélenchon, candidat des Insoumis à la présidentielle, au micro d'Antoine Gignot. Au chapitre politique, premier des 4 débats ce soir entre les 5 candidats des LR à l'investiture pour 2022. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin et Éric Ciotti sur le plateau de LCI. Le dernier débat aura lieu le 30 novembre, notamment sur France Inter à 21h. Quelles étaient les motivations de l'agresseur qui a poignardé ce matin 2 policiers à Cannes, protégés heureusement par leur gilet pare-balles. Ce ressortissant algérien domicilié en Italie en situation légale en France n'était pas connu des services de police ni inscrit dans aucun fichier de radicalisation. Le parquet antiterroriste à ce stade n'a pas été saisi. Il est actuellement hospitalisé dans un état grave. Des perquisitions ont eu lieu à Cannes et en Italie, mais sans résultat. À l'étranger, direction la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, où la situation ne cesse de se dégrader. Le régime de Loukachenko, mis au ban de l'Europe, est suspecté depuis des mois d'organiser délibérément des convois de migrants en direction de la Pologne. Jusqu'ici, il s'agissait de quelques groupes d'individus piégés à la frontière polonaise. Mais ce matin, ce sont des centaines de migrants qui font route vers l'Europe dans des conditions très dangereuses. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Sébastien.
Le risque, hein, c'est un incident sérieux entre les deux pays.
C'est en tout cas la crainte de la Pologne et de l'OTAN depuis ce week-end. Les vidéos se multiplient sur les réseaux sociaux montrant des réfugiés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, aux portes donc de l'Union européenne. Dans l'une d'elles, diffusée tout à l'heure par le ministère polonais de la Défense, on peut voir un homme tenter d'abattre à coups de pelle les grillages de barbelés à lame rasoir érigés par la Pologne à sa frontière. D'autres montrent plusieurs centaines de personnes, sacs à dos et vestes chaudes, massées à cette même frontière ou marchant le long d'une autoroute vers la Pologne. La Biélorussie intensifie donc la pression en envoyant des groupes de plus en plus nombreux. De son côté, Varsovie a dépêché plusieurs milliers de forces anti émeutes. Selon les récits de certains migrants qui ont pu traverser, ils sont emmenés par Minsk, poussés parfois à la pointe du fusil, et la Pologne elle aussi les refoule. Plusieurs d'entre eux seraient morts de froid ou de faim dans la forêt. Difficile d'en savoir plus. La zone est interdite et l'état d'urgence en vigueur. Dans une nouvelle escalade, Varsovie accuse maintenant le régime dictatorial de Loukachenko de provoquer des incidents. Des éléments des forces spéciales biélorusses tenteraient en effet d'attiser la violence pour créer le chaos frontières.
Marie-Pierre Véraud de la rédaction internationale de Radio France.
Et à 18h09, il dénonce les conditions de travail et le manque d'effectifs.
Des cheminots sont en grève depuis ce matin sur une partie des TER. Grève aujourd'hui et demain à l'appel de la CGT de Sud et de Force Ouvrière. Plusieurs réseaux perturbés dans les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, mais le plus gros point noir, c'est le Grand Est, notamment en Champagne-Ardenne. Résultat, quasi pas de TER au départ de la gare de Reims. À l'origine de cette grogne, une organisation du trafic qui se dégrade et pas assez de personnel, Sophie Constanzer.
La veille du week-end de la Toussaint, le conducteur chalonnais d'un TER parti de Paris, direction Nancy, a dû faire face à la colère des usagers. Un TER bondé car il y avait moitié moins de place que prévu quand il est arrivé à quai, explique Nicolas Maigret, conducteur et secrétaire de l'Union CGT à Reims.
Deux engins qui est prévu et qu'on se retrouve à un seul engin, ça crée forcément une problématique énorme. Et donc là, de fait, que ça soit le conducteur comme le contrôleur, arrive à des problématiques de tension à l'intérieur et même pour la bonne conduite du train.
Et si la colère des usagers, elle est logique, dans ce cas, elle pèse sur les cheminots, pareil en ce qui concerne le manque d'effectifs.
Une semaine de six journées plus des découchés dedans, on pourrait aller à 3 découchés, du coup avec des amplitudes de 11 heures. Vous voyez bien le dégât que ça peut faire en termes de conditions de travail.
Les fréquences des TER ont augmenté, mais ni le personnel ni le matériel ne suivent, selon Sébastien Nau. Résultat, le secrétaire régional de la CGT Cheminot n'a jamais autant entendu parler de démission.
Le fameux statut que tout le monde nous envie, rien à cirer. Moi, je suis un petit délégué syndical, mais toutes les semaines, je suis contacté pour une démission ou une rupture conventionnelle.
Sur les 2600 cheminots que compte la Champagne-Ardenne, 1 000 000 sont affectés à la conduite. Un chiffre en baisse selon la CGT.
Sophie Constanzer de France Bleu Champagne-Ardenne. L'Alsace, elle, sera touchée demain très fortement avec seulement un train sur 4, par exemple entre Strasbourg et Mulhouse. À l'inverse, après 20 mois de restrictions, les aéroports américains, eux, ont réouvert ce matin aux voyageurs du Mexique, du Canada et d'Europe vaccinés contre le Covid. Nous serons à l'arrivée à New York dans le journal de 19h. Le Covid qui sera demain à 20h au cœur de l'intervention du président Macron. Pour dire quoi? On ne sait pas encore. Y sera-t-il question notamment de la troisième dose, la dose de rappel à intégrer peut-être dans le pass sanitaire pour qu'il soit valable? Réponse demain. La dose de rappel qui se fait actuellement en France sans le vaccin Moderna, suspendu dans l'Hexagone depuis des indices inquiétants dans les pays scandinaves qui montraient notamment des risques plus importants de myocardite. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Eh bien, la France a fait sa propre étude sur ce phénomène et confirme les risques.
Oui, cette étude de pharmacovigilance porte sur toutes les personnes âgées entre 12 et 50 ans hospitalisées pour une myocardite ou une péricardite entre la mi-mai et fin août, soit au total un peu plus de 1800 personnes. Les résultats montrent effectivement l'existence légèrement accrue d'un risque de développer l'une de ces deux inflammations du cœur dans les 7 jours qui suivent une vaccination avec un vaccin à ARN messager. Un risque peu élevé, précise l'étude menée par la structure Epiphar, mais plus marqué pour les hommes de moins de 30 ans ayant reçu une deuxième dose de Moderna. Elle estime en effet à 132 le nombre de cas de myocardite supplémentaire pour 1 million de doses de Moderna administrées. Des données qui, aux yeux des auteurs, ne remettent pas en cause la balance bénéfice-risque du vaccin, d'autant que ces inflammations se soignent et qu'aucun mort n'est à déplorer. Il y a 15 jours, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert à Moderna comme rappel vaccinal sans aucune restriction d'âge. La France suivra-t-elle également? La Haute Autorité de Santé doit se prononcer dans les toutes prochaines minutes.
Hélène Chevalier, merci. Eux n'en sont pas à leur troisième dose de vaccin, ni même à leur première. Les enfants de primaire ont fait leur rentrée aujourd'hui après 2 semaines de vacances, 2 semaines de liberté, sans masque sur le bout du nez. Mais dans 61 départements français, cette liberté a pris fin. Retour du masque à l'école à cause d'une incidence au-dessus de 50 cas pour 100 000. Exemple à Rostrenen dans les Côtes d'Armor. Reportage de Margot Kefelec.
Pas facile de reprendre les vieilles habitudes pour cette maman. Ce matin, le masque de sa fille...
Je l'ai oublié. Heureusement qu'il y en avait dans la voiture.
Le retour du masque en classe, sa fille en CM1 ne le vit pas très bien.
C'est traumatisant, mais après, quand on voit quand même le nombre de cas contacts et voilà, les chiffres qui montent, je me dis qu'en fait, ce qu'il faut pour aider tout le monde, en fait.
Compliqué de retrouver tous ses camarades masqués pour Romain, 9 ans.
Bah, ça faisait bizarre d'aller voir tous avec un masque.
Il regrette déjà les 2 semaines de cours qu'il a pu passer des masqués.
Déjà, on entendait mieux, les autres parlaient, ils parlaient plus fort et on avait moins chaud et on transpire avec le masque.
Même si ce n'est pas confortable et que le virus ne circule pas beaucoup ici, les parents approuvent globalement le masque. Ils sont plus sceptiques sur le fait que les règles changent, comme Frédéric, papa d'une élève de CM.
C'est un peu chiant qu'ils l'ont enlevé parce qu'ils savaient très bien que ça allait arriver. Donc tant que c'est pas fini l'épidémie, il n'y a pas l'intérêt de l'enlever. Nous, les grands, on est obligés de les garder. Donc.
Et pour les petits, reste à savoir si le port du masque sera encore obligatoire la semaine prochaine, après la publication de nouvelles données sur la circulation du virus dans le département.
Voilà, pour la rentrée masquée chez les petits costards mauricains, comme on dit. C'est un reportage de Margot Kefelec de France Bleu Brésil.
Merci beaucoup Sébastien Legénie. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment d'une radio palestinienne qui émet en hébreu, et c'est une première. Ce soir, nous faisons, tiens, il y avait longtemps, un petit tour de l'état de l'épidémie près de chez nous ou un peu plus loin, nous irons en Israël, en Italie, en Allemagne et en Russie. Et puis à 19h20, je vous le remets dans l'oreille, c'est à vous de jouer. Le standard est ouvert. Peut-on encore réguler Facebook ou le monstre qu'il est devenu? Est-il justement trop fort pour nos législateurs? Tout cela alors que la lanceuse d'alerte qui dénonce Facebook et ses algorithmes est à Bruxelles aujourd'hui. Elle sera à Paris, en France, après-demain. À vos téléphones au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel peut-être.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir, vous nous annoncez un temps calme pour demain.
Oui, bonsoir à tous. Alors, il y a vraiment que la Corse hein, qui aura un temps instable demain avec quelques averses, parfois un coup de tonnerre le matin, davantage d'averses pour l'après-midi. Et ailleurs, en effet, ça sera le grand calme. Alors, du soleil autour de la Méditerranée. Sur les régions voisines de la Manche, on retrouvera notre perturbation avec un ciel gris, mais seulement quelques gouttes. Et puis ailleurs, les éclaircies seront belles l'après-midi, mais il faudra attendre la dissipation de la grisaille matinale, parfois tenace, du côté du sud-ouest, par exemple, vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, ou alors vers l'Alsace.
Et puis sinon, plus frais, Élodie.
Oui, le matin, souvent 0 à 4 degrés, 4 à 10 quand même près de la Manche et près de la Méditerranée. Et puis l'après-midi, seulement 7 à 11 degrés, un peu plus près de l'océan, près de la Manche, sur le nord-ouest également avec 10 à 15 degrés. Et autour de la Méditerranée, on ira jusqu'à 20 degrés, Fabienne.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.